Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord. Eh bien aujourd'hui nous aborderons un sujet qui n'est pas sans rapport avec l'actualité, mais que nous allons traiter sur le mode historique, bien évidemment. Il s'agit des sages-femmes en Périgord autour du XIXe siècle. Et pour illustrer ce sujet, j'ai fait appel à mon ami...
Le docteur Jean-Marie Cazoran, qui a exercé à l'hôpital de Périgueux auprès du service de maternité et de pédiatrie, qui est également... spécialiste en histoire de la santé en Dordogne et membre de la chape. Donc c'est avec grand plaisir que je vais essayer de débattre avec vous des sages-femmes en Périgord, sachant que c'est un sujet relativement vaste, mais qui n'est pas sans intérêt quand même.
Voilà. Eh bien, merci Jean-Marie. Et donc, je sais que tu as beaucoup fouillé ce sujet, alors que l'histoire du Périgord, plutôt qu'aux sages-femmes, s'est plutôt intéressée à un célèbre gynécologue.
Oui, alors bien sûr, tout le monde connaît le professeur Pozzi, qui a sa rue à Périgueux, qui était plutôt originaire d'Issijac et de Bergerac, mais qui fut un obstétricien et surtout un gynécologue périgourdin, mais ayant exercé exclusivement à Paris. Il a mal fini tout de même son existence, il a été assassiné, mais c'est en rapport avec la gynécologie, bien sûr, mais c'est une porte d'entrée, si vous voulez, à l'obstétrique en Dordogne, bien qu'il ne l'ait pas exercé en Dordogne et qu'il y a toujours une grande différence entre le département de la Dordogne, qui est un département rural, et des villes comme Paris, qui sont en avance, ou du moins différentes, du mode de fonctionnement périgourdin.
Mais le fait que la Dordogne soit un département rural est peut-être particulièrement intéressant pour étudier cette profession de sage-femme.
Absolument, oui, c'est vrai, parce que nous nous trouvons dans un schéma que l'on va faire débuter au XVIIIe siècle, où les accouchements étaient faits par les matrones, ce qu'on appelait les matrones, c'est-à-dire une femme du voisinage ou du village à côté ou du village qui avait... ou qui était censé avoir des connaissances obstétricales, et on faisait appel à elle lorsque on avait besoin d'accoucher. C'était une activité qui avait lieu entre femmes, car à l'époque, on pensait, et ça a été repris à la Révolution, que seules les femmes pouvaient pratiquer des accouchements. On peut discuter de la chose.
Oui, actuellement, il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là, d'ailleurs.
Donc, les matrones n'avaient aucune formation, si ce n'est une formation sur le tas. On retrouve des successions de matrones de mère en fille. Donc, il y avait une formation sur le tas avec des transmissions de connaissances. Mais enfin, ce n'étaient pas forcément de grandes obstétriciennes.
Et qui d'autre que les matrones exerçait ou s'est mis à exercer l'obstétrique dans le courant du XVIIIe siècle?
Alors, en Dordogne, si vous voulez, il y avait des matrones et quelques sages-femmes. Et nous en reparlerons tout à l'heure, mais il y en avait très très peu. Par contre, quand on regarde des départements ou des villes comme Paris ou Bordeaux, il y avait des sages-femmes formées dans des écoles de sages-femmes et il y avait des chirurgiens... patentés, des vrais chirurgiens, qui s'orientaient vers l'obstétrique. Et on fait remonter, c'est pour faire savant un petit peu, cette prise en charge des accouchements par les chirurgiens à Louis XIV, qui, pour l'accouchement de Mademoiselle de Lavallière, avait fait appel à un chirurgien. C'était la première fois qu'un chirurgien faisait un accouchement. C'était un homme, donc. Et par la suite, évidemment, à la cour, on a toujours fait appel à des chirurgiens. Mais avant que ça vienne en Dordogne, il faut l'entendre un ou deux siècles.
Il a fallu un certain temps.
Voilà.
Et par ailleurs, je crois, nous avons discuté à propos d'un cas qui montrait que la confiance dans les médecins ou chirurgiens pour accoucher n'était pas toujours au top niveau.
Absolument. Parce que les matrones avaient leurs défauts, absence de formation, mais elles avaient l'expérience. Progressivement, les médecins qui se sont installés en Dordogne au début du XIXe siècle ont dit « nous sommes médecins », même si souvent c'était les officiers de santé, « nous sommes capables de faire des accouchements », et eux n'avaient aucune compétence. Et on a retrouvé des papiers où le maire de Saint-Jean-de-Col écrit au sous-préfet de Nontron pour lui dire qu'il préfère sa matrone, qui n'a pas de diplôme, mais a de l'expérience et n'a jamais eu d'accident particulier, au médecin du coin, qui lui n'a aucune formation et qui n'inspire pas confiance, surtout qu'il confiait les accouchements à son fils, qui lui n'avait aucun diplôme. Donc il y a une discordance entre capacité et diplôme. Donc on peut discuter de ça, parce qu'il y avait certainement des matrones qui n'étaient pas si mauvaises que ça pour accompagner les accouchements. Il ne faut pas non plus jeter tout. Mais on était au 19e siècle, dans une période de codification des professions, et évidemment les matrones ne rentraient dans aucun cadre.
Et de codification des statuts, des diplômes, etc.
Voilà.
Chose que, semble-t-il, on nous reproche maintenant. J'entendais l'autre jour un débat économique qui disait qu'en France, on n'arrivait pas à recruter parce qu'on se focalisait sur le diplôme. Dans le domaine de la santé, c'est quand même peut-être pas plus mal.
C'est important d'avoir... C'est une certaine garantie. Mais ça ne veut pas dire que tous les diplômés sont impeccables. Donc, bon, c'est comme ça, mais je crois quand même qu'il y a des garanties qui sont assurées par une formation et le contrôle des pairs.
Et donc, la formation et la codification du métier de sage-femme sont nées à une époque pour lutter contre ce qu'on appelait le massacre des innocents.
Oui, effectivement, l'autorité s'était rendu compte qu'il y avait une mortalité néonatale très importante du fait de la mauvaise qualité de l'obstétrique, et qu'il fallait absolument qu'il y ait une natalité importante dans un pays. Un pays n'était riche que de ses hommes. Donc il fallait augmenter la population, et dès le XVIIIe siècle, on s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là. Donc ce qu'on appelait le massacre des innocents, c'était pour frapper un peu les imaginations, mais les autorités voulaient absolument améliorer l'obstétrique.
Et donc, c'est à ce moment-là que sont apparues les premières écoles de sages-femmes.
Il y a eu des écoles de sages-femmes à Paris, essentiellement. Il y avait également, et ce qui a frappé en Dordogne, une sage-femme qui était renommée, Madame Le Boursier de Coudray, sage-femme royale, qui s'était mise à la tête d'une entreprise entre guillemets, mais elle se déplaçait en province, et allait faire de l'enseignement obstétrical auprès de gens qui le voulaient bien. Elle est venue en Dordogne à deux reprises. En 1764, elle a passé 2 mois à Bourdeil. Je ne sais pas pourquoi elle avait pris comme centre Bourdeil, mais elle a fait de l'enseignement pendant 2 mois. Elle est revenue 4 ans plus tard à Périgueux, où elle est restée une quinzaine de jours. Et ensuite, pendant 2 ou 3 ans, elle a circulé dans la région. C'était une personne qui avait rédigé un livre sur l'art de l'accouchement, mais surtout qui se déplaçait avec des mannequins pour démonstration de ce qu'était un accouchement, les présentations d'un accouchement, et elle montrait comment on pouvait faire un accouchement. Donc il y avait un enseignement. Et cet enseignement était pour les matrones qui le voulaient bien, qui voulaient bien se perfectionner, voulaient bien acquérir quelque chose, mais aussi pour les médecins qui le voulaient bien. C'était quelque chose, c'était un début de formation locale à l'obstétrique. Alors, pour compléter un petit peu ça, on peut dire que ce désir de sauver les innocents, comme on l'a dit tout à l'heure, s'est continué à la Révolution. La Révolution française a modifié totalement le statut des médecins, des pharmaciens, mais n'a pas touché aux sages-femmes. Pour eux, c'était très important qu'il y ait des sages-femmes pour assurer l'obstétrique. Dans leur esprit, c'était les sages-femmes qui allaient faire des accouchements dans les campagnes. En fait, on verra, c'est l'occasion d'en reparler, en fait, les sages-femmes s'installaient surtout en ville, parce que c'est là qu'il y avait des gens susceptibles de pouvoir payer les frais d'un accouchement. Alors que dans les campagnes, ça a été long à ce que les sages-femmes aillent dans les campagnes. En fait, c'est arrivé.
Et donc, si j'ai bien compris, au XIXe siècle, les petites villes, les cantons et les responsables politiques se sont souciés d'essayer de former un certain nombre de sages-femmes par département et de les faire rayonner ou du moins s'installer dans les bourgades principales.
Alors, il faut voir que dès le début du XIXe siècle, c'est la période de l'Empire, du Premier Empire, de Napoléon, et Napoléon est un grand codificateur. Donc il y a le code civil que tout le monde connaît, mais il y a aussi les codes de formation des médecins, des pharmaciens et des sages-femmes. Donc il y a des articles qui institue le métier de sage-femme. Et pour Napoléon, et pour beaucoup de gens à l'époque, il y avait deux types de sage-femmes. Il y avait les sage-femmes de deuxième classe. Deuxième classe, c'était les sage-femmes qui étaient formées par des cours départementaux qui duraient 6 mois, 1 an, qui étaient faits des cours par des médecins, des chirurgiens locaux qui avaient des connaissances un petit peu en obstétrique. Et ces sages-femmes étaient issues de cantons. C'est-à-dire que le préfet ou le sous-préfet désignait dans chaque canton une femme entre 20 et 40 ans, sachant si possible lire et écrire, et surtout qu'elle soit de bonne mœurs. Très important. Donc il fallait que ces femmes avaient une formation et étaient diplômées en passant un examen auprès des jurys départementaux des officiers de santé. Donc elles avaient un diplôme, une certaine formation. On a dit que vraiment c'était une formation au rabais, mais en fait, parmi ces personnes-là, certainement qu'il y avait aussi des gens capables de faire de l'obstétrique. Ça, c'est pour les sages-femmes de deuxième classe. À l'opposé, il y avait les sages-femmes de première classe, alors qui, elles, étaient formées à l'école de la maternité à Paris. 3 ans de formation, c'est quand même autre chose. Ces femmes, ces jeunes filles plutôt, étaient souvent des orphelines ou des enfants abandonnés. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient plus disponibles, peut-être. Et les sous-préfets demandaient à ce que régulièrement, chaque arrondissement envoie une jeune fille, sachant lire et écrire, de bonne mœurs, etc., à Paris, pour suivre cette formation, qui était vraiment une formation vraie, telle qu'on l'a connue il y a quelques années en France. 3 ans de formation, avec des écrits, des gardes, des examens, etc. Et ces personnes-là étaient diplômées, donc, sages-femmes, et revenaient dans l'arrondissement dont elles étaient issues. Il y avait une espèce de contrat moral entre les autorités et cette personne, qui était boursière, donc on lui payait ses études à Paris, on lui payait tout, mais elle s'engageait à revenir dans l'arrondissement, là où le préfet ou le sous-préfet la nommerait. Donc c'est déjà un corps, pas fonctionnaire si vous voulez, mais qui se rapprochait un peu de ça. Souvent, le canton ou la petite ville où elle s'installait lui assurait le logement. Et souvent, peut-être pas souvent, mais parfois, elle avait aussi des fonctions d'enseignante.
Dans les écoles départementales.
Les écoles départementales, tout ça. Donc, c'est un corps qui était, pas au service, mais dirigé, contrôlé par les autorités préfectorales. Donc c'est quand même assez différent de beaucoup d'autres professions médicales ou paramédicales. Là, il y avait vraiment une injonction. Et pour terminer sur cette formation des sages-femmes, ce diplôme, c'est le premier métier féminin reconnu. Première profession, les infirmières, les religieuses soignantes n'avaient pas de diplôme. Là, il y a un diplôme nationalement reconnu. Donc c'est quand même, à toute la gloire des sages-femmes, premier diplôme féminin en France.
Et si je me souviens bien de nos discussions, il y avait aussi, semble-t-il, une école de préparation.
Voilà, oui, j'ai oublié d'en parler, je m'excuse. Oui, pour partir à Paris, il fallait être un petit peu formé. Et c'est pourquoi, je ne sais pas, c'est l'hôpital hospice de Montpazier qui était chargé de préparer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ces jeunes filles, on leur apprenait à lire, à écrire, à coudre, on leur apprenait un certain nombre de choses, avant de les envoyer à 18 ans, à Paris. Donc elles ont passé 3 ans, il y a 21 ans, elles revenaient, sage-femme de première classe, en Dordogne, nommée à un endroit précis.
Elles revenaient majeures et diplômées.
Majeures et diplômées, vaccinées éventuellement.
Voilà. Bien, on va faire une petite pause musicale. bien après cette ère de circonstances, parce qu'on est proche de la fête de la Nativité, on va reprendre nos propos sur les sages-femmes et peut-être maintenant parler de l'apparition du statut, enfin plus en détail, du statut des sages-femmes et de l'évolution de la profession. En s'intéressant tout d'abord à ce qui a été défini comme relevant de leurs compétences.
Alors, c'est pas flou, mais enfin c'est à discuter. Les sages-femmes sont là, en principe, pour l'accouchement. Les visites prénatales n'existaient pas beaucoup à l'époque, elles n'en faisaient pas non plus. Les suites de couches relevaient de la sage-femme, mais également les soins au nouveau-né et à l'enfant petit. Mais ce n'était pas prévu dans leur statut. Par contre, dans leur statut, il y avait écrit qu'elles ne pouvaient pas se servir d'instruments d'aide à l'accouchement, comme le forceps. Le forceps était réservé aux médecins. Je ne suis pas sûr que toutes les sages-femmes n'utilisaient pas de temps en temps un forceps. Peut-être pas dans les cas les plus difficiles, mais de temps en temps, elles devaient bien s'en... Mais ce n'était pas autorisé. Elles n'étaient pas autorisées non plus à faire des avortements, ça paraît évident. Mais les sages-femmes, dans leur formation, apprenaient la saignée, grande thérapeutique de l'époque. Elles apprenaient la pose de sangsues, les ventouses, les pansements, les vaccinations. Elles apprenaient beaucoup de choses qu'elles n'avaient pas le droit de faire. C'est bizarre pour une profession à qui on interdit de faire, mais on forme. Ce qui veut dire qu'elles pratiquaient les interventions dont je viens de parler. Tout le monde le savait, mais on passait là-dessus. Parce que les sages-femmes diplômées, réparties un petit peu dans tout le département, progressivement on pourra en reparler, et participer à ce qu'on a appelé la médicalisation de la société. Elles introduisaient de la médecine auprès de populations banales, courantes du département, rurales, hein, et on les laissait pratiquer plus de choses qu'elles n'avaient le droit d'en pratiquer. Un exemple parmi d'autres choses importantes, elles pratiquaient beaucoup la vaccination contre la variole, que les médecins, après un enthousiasme au départ, avaient quasiment abandonné. Et c'est les sages-femmes qui ont repris la vaccination contre la variole qu'elles faisaient très largement. Ce qui est quand même quelque chose d'un peu particulier.
Elles ont donc contribué à sauver la population.
Elles y ont contribué largement, je crois.
Si on voit aussi la différence entre les armées de Napoléon, qui étaient largement vaccinées, Napoléon Ier, largement vacciné contre la variole, et celle de son neveu Napoléon III, qui n'a pas vacciné les soldats de 1870, et il y a eu des épidémies en 70, des épidémies de variole qui ont contribué.
Très importante. C'est exact. Les sages-femmes, dans la mesure où elles étaient réparties un petit peu sur le département, même si elles n'allaient pas jusqu'au fond des campagnes, étaient le personnel médical pas cher, proche de la population, auquel on s'adressait très facilement quand on avait un petit souci de santé. Le langage, les habitudes qu'avaient les sages-femmes étaient très proches des populations. Le médecin, lui, était savant et souvent un peu pédant. Avec elles, elles étaient vraiment en première ligne. Et quand on avait un souci, même y compris de la traumatologie, on s'adressait à la sage-femme. C'était elle qui était le garant médical réparti dans les campagnes. Donc elles ont contribué à l'avenir. Alors, pour revenir sur le nombre, quand on regarde au début du siècle, les registres préfectoraux, il y a 6 sages-femmes en 1805. Et elles seront 180 à la fin du siècle. Autant que de médecins.
Multiplié par 30.
Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire vraiment énormément de sages-femmes, progressivement, durant tout le siècle. Des sages-femmes formées au niveau du département, mais aussi de sages-femmes formées à Paris, et qui ne seront formées à Bordeaux qu'à partir de 1873. Jusqu'à 1873, il n'y avait que 3 facultés en France, Paris, Montpellier et Strasbourg. Et c'est la Troisième République qui a multiplié les facultés à Bordeaux, à Lille, à Lyon, etc. Donc, et qui ont formé des sages-femmes. Donc ce n'est que progressivement qu'il y a eu beaucoup plus de sages-femmes. Et on peut rajouter, si vous voulez, que ces deux catégories de sages-femmes, ces deux classes, ont disparu au début du XXe siècle. Et maintenant, on ne parle que de sages-femmes formées.
Et par contre, à la fin du XIXe aussi, c'est là que l'obstétrique s'est médicalisée de plus en plus.
Alors là, c'est un autre problème. Alors que se développaient les sages-femmes et leurs activités, l'amélioration de l'obstétrique et de la néonatologie, les médecins qui ne s'intéressaient pas du tout à l'obstétrique sont venus progressivement à s'intéresser et à se former à l'obstétrique. Pour avoir des exemples, j'ai étudié trois activités de trois médecins différents. En 1920, un médecin à Quinsac, dans le nord du département, ne pratiquait aucun accouchement. Donc, c'était les matrones qui faisaient tout en 1924. Ensuite, j'ai
1800.
Ensuite, j'ai un médecin à Saint-Astier, vers 1832, qui, lui, a pratiqué trois accouchements dans l'année. Mais c'était des accouchements compliqués. Ce qui veut dire que des sages-femmes ou des matrones ou des familles appelaient le médecin en catastrophe quand ça se passait mal, trois fois. Et après, j'ai un autre médecin à Razac, de la fin du siècle, qui, lui, pratiquait quelques accouchements, de plus en plus d'accouchements, qui arrivait jusqu'à la fin de sa vie à une trentaine ou quarantaine d'accouchements par an, mais qui avait aussi une activité en relation avec les sages-femmes. C'est-à-dire que la sage-femme commençait les accouchements et appelait le médecin en cas de difficulté. Donc il y avait une espèce de subordination de la sage-femme au médecin qui, lui, était formé, était diplômé et, un peu paternalistement, supervisait les sages-femmes. Enfin, il était le chef. Mais en fait, c'est dire que les sages-femmes, progressivement, sont devenues, et c'est pas péjoratif, mais des auxiliaires médicaux, bien qu'elles fassent elles-mêmes des accouchements. Et à la fin du siècle, 60% des accouchements, toujours à domicile, étaient faits que par la sage-femme. Il n'y avait l'intervention du médecin que dans 20% des cas.
D'accord. Et de quand date ce qu'on pourrait appeler la migration des sages-femmes vers l'hôpital?
Là, c'est encore plus compliqué. On n'accouchait pas à l'hôpital. On n'accouchait à l'hôpital que les gens en grande difficulté sociale. Et il y en avait très peu. L'hôpital de Périgueux, qui peut être la référence dans le département, pratiquait 20-30 accouchements par an. Ce qui est vraiment très peu, vu la population qu'il y avait. Et il n'y allait que des gens en grande difficulté. Et pour ces gens-là, il y avait un médecin, un chirurgien, qui était plutôt chargé de l'obstétrique un petit peu, mais ça l'intéressait en général pas beaucoup. Et on faisait appel à une sage-femme de ville qui venait en cas d'accouchement à l'hôpital. Et puis progressivement, les hôpitaux, surtout les gros hôpitaux comme Bergerac et Périgueux, mais ça c'est au début du XXe siècle, ont vu augmenter leur nombre d'accouchements et prendre à temps plein les sages-femmes dans leur structure. Quand on a bâti l'hôpital de Périgueux tel qu'il est actuellement, en 1938, le bâtiment obstétrical a été bâti et il y avait des petits appartements pour les sages-femmes au sein de la structure. Donc les sages-femmes étaient là à vie.
Et pourquoi ce bâtiment de la maternité était-il de l'autre côté de la route? Comme on a bien connu cette expression de l'autre côté de la route.
L'autre côté de la
puisque
route.
Puisque nous travaillions tous les deux.
C'est l'autre côté de la route. Gauche. Mais c'est pas pour rien que, dans les textes, c'est écrit. C'est de façon à ce que les gens de Périgueux, en allant accoucher dans cette structure, n'aient pas l'impression d'accoucher à l'hôpital comme les pauvres autrefois. Donc c'était quelque chose à part. Et à part au point que ça avait vraiment une vie autonome. Les sages-femmes dormaient sur place, les femmes ne bougeaient pas de cet endroit-là. C'était vraiment hors de l'hôpital. C'était dans l'enceinte de l'hôpital, mais c'était hors de l'hôpital. Hein, donc pour essayer d'attirer. Puis après, progressivement, avec le désir de sécurité, les hôpitaux ont vu leur nombre d'accouchements augmenter, les sages-femmes venir là, alors qu'elles diminuaient progressivement en libéral dans les campagnes. Les gens se déplaçaient plus facilement, allaient vers l'hôpital, donc il y avait besoin de moins de sages-femmes. La grande période de la sage-femme libérale, c'est le 19e siècle. Maintenant, il y a encore quelques sages-femmes libérales, mais la plupart des sages-femmes sont rattachées à une structure hospitalière.
Voilà, donc nous allons peut-être, puisque c'est un sujet qui fait parler de lui dans l'actualité, nous allons justement voir quelle est la situation actuelle et quel pourrait être l'avenir de la profession de sage-femme.
Difficile de répondre à toutes les questions, mais on peut dire que bon, les sages-femmes sont essentiellement des sages-femmes hospitalières. Il y a quelques sages-femmes libérales et quelques sages-femmes fonctionnaires dans les services d'aide à l'enfance et de PMI. Hein. Mais enfin, la grande majorité est à l'hôpital. Il faut tenir compte du fait qu'elles ont un diplôme difficile, après 4 à 5 ans d'études. Donc elles sont au niveau master. Elles ont des compétences et elles demandent à ce qu'elles soient considérées non pas comme un auxiliaire médical, comme l'infirmière qui a 3 ans d'études, mais comme quelqu'un de supérieur, proche du médecin. Et alors là, c'est une question d'équilibre entre ce qu'elles veulent faire et ce que les médecins les autorisent à faire. Donc là, il y a une espèce de côte mal taillée à trouver, où chacun va trouver son petit bonheur sans avoir l'impression d'être spolié par l'autre, ce qui n'est pas toujours facile. Hein, la sage-femme ayant des compétences et demandant une extension de ses compétences, et le médecin, fort de sa spécialité, disant « c'est moi qui suis responsable ».
Mais dans la pratique, peut-être aussi que la pénurie médicale dont on parle beaucoup a amené de fait les sages-femmes à voir s'étendre un peu leur champ de compétences.
Je pense que oui, que ça ira de plus en plus comme ça. Faut pas oublier quand même que la plupart des accouchements sont des accouchements normaux. Il n'y a pas besoin d'intervention majeure. Donc on peut penser que les sages-femmes pourraient faire plus qu'elles ne le font actuellement. Mais il y a toujours un problème de responsabilité. Et puis c'est difficile de déléguer à quelqu'un sans faire confiance. Il y a un rapport de confiance qui doit s'établir. Alors il y a sûrement des endroits, des maternités où ça se passe bien, et d'autres maternités où ça se passe moins bien. Le relationnel en médecine, un peu comme ailleurs, n'est pas toujours facile.
Et par ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a une certaine suggestion particulière à la profession de sage-femme, en particulier l'exercice avec des gardes de 24 heures. En milieu hospitalier, ça fonctionne pratiquement toujours comme ça, et c'est sans doute à l'origine de leurs revendications actuelles.
Il y a beaucoup de revendications. Les revendications auxquelles on a répondu que par des rémunérations, ce qui n'était pas le sujet, à mon avis. Hein, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que ce n'est pas là-dessus qu'elle voulait une réponse.
Bien. Eh bien, nous verrons ce que l'avenir nous apportera. Merci en tout cas pour avoir éclairé l'histoire de ce métier.
Merci.